Chapitre 18 Coup de canon. En même temps qu'il donnait la chasse à l'albatros, Eric avait commandé de mettre en batterie le canon que l'Alaska portait à son avant. Cette opération prit beaucoup de temps. Quand le canon fut débarrassé de son fourreau goudronné, chargé et prêt à partir, il se trouva que l'ennemi était hors de portée. Sans doute, il avait profité du temps d'arrêt pour pousser vivement ses feux, et son avance était déjà de 3 ou 4 milles. Ce n'est pas à la rigueur une distance démesurée pour un Gatling, mais avec le roulis, la vitesse des deux navires et la cible très limitée que le yacht américain offrait au tir, il y avait beaucoup plus de chances de jeter ses obus à l'eau que de les loger au but. Mieux valait donc attendre. Bientôt, du reste, l'avance de l'Albatros, sans diminuer, cessa de croître. Expérience faite, il devint évident que les deux navires, lancés à toute vitesse, étaient à peu près aussi bons marcheurs l'un que l'autre. L'intervalle qui les séparait resta le même pendant plusieurs heures. Toutefois, c'était au prix d'une énorme dépense de charbon, denrée qui devenait de plus en plus rare à bord de l'Alaska, et il y avait à craindre que cette dépense ne fût en pure perte si la nuit arrivait sans qu'on eût pu atteindre l'Albatros. Eric ne se jugea pas en droit de jouer cette dernière carte sans consulter son équipage. Il le fit monter sur le pont et exposa franchement la situation. « Mes amis, dit-il, vous savez de quoi il s'agit ? De voir si nous prendrons, pour le livrer à la justice maritime, le scélérat qui a tenté de nous faire périr sur la basse froide, ou si nous lui permettrons de s'échapper. C'est à peine s'il nous reste du charbon pour 6 jours pleins. Toute déviation de route nous expose donc à finir notre voyage à la voile, ce qui peut même en compromettre le succès. D'autre part, l'Albatros compte sûrement sur la nuit pour nous mettre en défaut. Il sera essentiel de le garder dans le rayon de notre projecteur électrique et de ne pas ralentir un instant notre marche. Nous sommes sûrs, d'ailleurs, que cette course aura un terme obligé, soit demain, soit le jour suivant, à la barrière de glaces éternelles qui défend les approches du pôle vers le 78e ou le 79e degré. Mais je n'ai pas voulu continuer cette poursuite sans vous demander si vous l'approuvez et si vous acceptez d'avance les complications où elle peut nous jeter. » Les hommes se consultèrent à voix basse et chargèrent Master Herzebaum de formuler leur opinion. « Nous sommes d'avis que le devoir de l'Alaska est de tout sacrifier à la capture de ce misérable, » dit-il tranquillement. « Fort bien. » « Nous allons donc faire de notre mieux pour y arriver, » répliqua Eric. Sûr désormais que l'équipage était avec lui, il ne ménagea pas le combustible et parvint à se maintenir en dépit des efforts désespérés que faisait Tudor Brown pour le distancer. À peine le soleil s'était-il couché que l'œil électrique de l'Alaska s'alluma à la pointe de son grand mât et se fixa impitoyablement sur l'Albatros pour ne plus le quitter jusqu'au jour. Toute la nuit, l'intervalle resta le même entre les deux navires. L'aube, en se levant, les trouva toujours courant vers le pôle. À midi, l'observation solaire donna comme position de l'Alaska 78 degrés, 21 minutes 14 secondes de latitude nord, par 98 degrés de longitude est. Les glaces flottantes, qu'on n'avait plus aperçues depuis 10 ou 15 jours, commençaient à redevenir nombreuses. Il fallait par instant les fendre à coups d'éperon, comme naguère dans la mer de Baffine. Eric, convaincu que la banquise n'allait pas tarder à se montrer, eut soin d'obliquer légèrement sur la droite de l'Albatros, de manière à lui barrer le chemin vers l'est s'il était tenté de changer de route en se voyant arrêté au nord. Cette précaution se trouva pleinement justifiée, car vers 2 heures, une longue barrière de glace se profila sur l'horizon. Aussitôt, le yacht américain se porta vers l'ouest, laissant la banquise à 4 ou 5 milles au large par tribord. L'Alaska suivit immédiatement sa manœuvre, mais cette fois en obliquant à gauche de l'Albatros, de manière à le couper s'il tentait de revenir au sud. La chasse devenait très émouvante. Certain de la direction que l'Albatros était obligé de suivre, l'Alaska cherchait à le prendre en flanc, de manière à le pousser de plus en plus contre la banquise. Le yacht, de plus en plus hésitant, retardé par les glaces flottantes, changeait à tout moment d'allure, tantôt appuyant au nord, tantôt se jetant éperdument vers l'ouest. Eric, monté sur le nid de corbeau, suivait avec attention ses moindres feintes pour les déjouer par des mouvements appropriés, quand tout à coup, il vit le yacht s'arrêter court, virer de bord et se présenter par l'avant. Une longue ligne blanche qui s'étendait à l'ouest disait assez la cause de cette manœuvre. L'Albatros était venu se jeter au fond d'un véritable golfe formé par un promontoire méridional de la banquise, et comme un fauve acculé par la meute, il lui faisait face. Le jeune commandant de l'Alaska n'avait pas eu le temps de redescendre sur le pont qu'un obus passa en sifflant au-dessus de sa tête. Ainsi, l'Albatros était armé et comptait se défendre. « J'aime mieux qu'il en soit ainsi et qu'il ait tiré le premier », se dit Eric en donnant ordre de riposter. Son obus ne fut pas plus heureux que celui de Tudor Brown et s'en alla toucher à 200 ou 300 mètres du but. Mais le combat était engagé maintenant et bientôt le tir se régularisa. Un projectile américain cassa net la grande vergue de l'Alaska, s'abattit sur le pont et en éclatant tua 2 hommes. Un obus suédois porta en plein sur la dunette de l'Albatros et dut y faire de grands ravages. Plusieurs autres projectiles se logèrent de part et d'autre dans la coque ou dans les manœuvres. Les deux navires se rapprochaient de plus en plus, en virant tout à coup pour échanger leurs bordées, quand un roulement lointain vint se mêler à la voix du canon, et les équipages, en levant la tête, virent le ciel tout noir du côté de l'est. Un orage, un rideau de brume ou de neige allait-il s'interposer entre l'Albatros et l'Alaska, permettre à Tudor Brown de s'échapper? C'est ce qu'Eric ne voulait à aucun prix. Il résolut d'en venir à l'abordage. Armant tout son monde de sabres, de haches, de coutelas et remettant son navire en marche, il le jeta à toute vapeur contre le yacht. Tudor Brown n'avait garde de l'attendre. Il battit en retraite, se remit à longer la banquise tout en tirant de 5 minutes en 5 minutes un coup de canon par l'arrière. Mais son champ d'action était maintenant trop limité. De plus en plus étroitement resserré entre le continent de glace et l'Alaska, il vit qu'il n'avait plus de salut possible, sinon en risquant une pointe audacieuse pour regagner la haute mer. Il la tenta donc, après quelques feintes destinées à tromper son adversaire sur sa véritable intention. Eric le laissa faire. Puis, au moment précis où l'Albatros, lancé à toute vapeur, arrivait à sa portée, il se rua sur lui avec son éperon d'acier. L'effet du choc fut terrible. Une plaie béante s'ouvrit dans les flancs du yacht qui s'alourdit à l'instant, s'arrêta et devint presque impossible à manœuvrer. Quant à l'Alaska, il s'était promptement rejeté en arrière et se préparait à renouveler son assaut. L'état de plus en plus menaçant de la mer ne lui en laissa pas le temps. La tempête arrivait. C'était un grand vent de sud-est, accompagné de tourbillons de neige, et qui n'avait pas seulement pour effet de soulever des lames formidables, mais refoulaient vers le golfe où se trouvaient les deux navires comme au fond d'un entonnoir, des masses énormes de glace flottante. On aurait dit que de tous les points de l'horizon, elle s'y donnait subitement rendez-vous. Éric comprit qu'il n'y avait pas une minute à perdre et qu'il fallait sortir sans délai de ce cul-de-sac s'il ne voulait pas s'y voir enfermé peut-être sans ressources. Virant de bord vers l'est, il ne songea plus qu'à lutter contre le vent, contre la neige, contre l'armée hurlante des glaçons. Mais bientôt, il fallut s'avouer que l'entreprise était sans espoir. La tempête faisait rage avec une telle puissance que ni la machine de l'Alaska, ni son éperon d'acier ne pouvaient plus rien. Non seulement le navire avançait peu, mais par moments, il était forcé de reculer de plusieurs mètres. Ses mâts gémissaient sous l'effort du vent. Une neige épaisse, obscurcissant le ciel et aveuglant l'équipage, couvrait déjà le pont et les manœuvres sur plus d'un pied d'épaisseur. Les glaces, s'entassant, s'accumulant, élevaient à chaque rafale leur muraille impénétrable. Force fut de revenir à la banquise, d'y chercher presque à tâtons un petit havre, de se résigner à attendre une éclaircie. Le yacht américain avait disparu dans la tourmente, et dans l'état où l'avait mis le coup de bélier de l'Alaska, il était plus que douteux qu'il pût y résister. Quant à sortir de l'impasse, Éric ne supposait même pas que ce fût à craindre. Au surplus, la situation était assez grave pour qu'on n'eût plus que des soucis personnels, et de minute en minute, elle empirait. Rien ne peut rendre l'horreur et l'épouvante de ces tempêtes arctiques, où les forces de la nature primitive semblent, en quelque sorte, se réveiller pour donner aux navigateurs un spécimen de ce qu'ont dû être jadis les cataclysmes de la période glaciaire. L'obscurité était profonde, quoiqu'il fût à peine 5 heures du soir dans les pays où le jour et la nuit se distinguent l'un de l'autre. La machine à vapeur ayant dû s'arrêter, il n'y avait pas à songer à allumer le foyer électrique. Au sifflement de l'ouragan, au roulement du tonnerre, au vacarme des glaces flottantes, s'entrechoquant et s'écroulant les unes sur les autres, s'ajoutaient dans les ténèbres les craquements de la banquise qui se disloquait et se brisait de toutes parts. Chaque crevasse, en se formant, donnait lieu à une détonation qui se détachait sur la basse continue de la tempête comme un coup de canon en détresse. La fréquence de ces explosions indiquait que les fissures devaient être innombrables. Bientôt, l'Alaska en subit directement le contre-coup. Le petit havre où il avait pu se réfugier ne tarda pas à être envahi par le drift ice comme les moindres recoins du golfe. Un entassement de glaçons, unis, cimentés par la neige qui tombait toujours, se forma autour de la coque du navire, l'assiégea, l'enserra comme dans un étau. Dès lors, l'Alaska se mit à craquer, lui aussi, sous l'effort des glaces. Ses membrures gémirent à l'unisson de la banquise dans laquelle il était maintenant incrusté. À tout instant, on pouvait redouter que la coque se rompît, et cela n'aurait assurément pas manqué si elle n'avait été renforcée en vue de ces pressions terribles. Éric, résolu à ne pas du moins succomber sans lutte, avait dès le premier moment employé son équipage à établir autour du navire un revêtement vertical de lourdes poutres destinées à atténuer autant que possible les pressions en les répartissant sur une plus large surface. Mais ces étais, s'ils eurent pour effet immédiat de protéger la coque, ne tardèrent pas à amener un résultat imprévu et qui menaçait d'être fatal. Le navire, au lieu de subir un écrasement, se trouva soulevé hors de l'eau à chaque mouvement de la banquise, pour retomber sur les glaces avec la force d'un marteau-pilon. D'un moment à l'autre, dans une de ces chutes effroyables, il pouvait être fracassé, couler bas, disparaître. Or, pour parer à ce danger, il n'y avait qu'une ressource, c'était de renforcer encore, de renforcer sans relâche, la barrière de drift ice et de neige qui protégeait tant bien que mal la coque, de manière qu'elle fît partie d'une masse à peu près homogène et put en suivre les va-et-vient. Tout le monde s'y employait avec ardeur. Ce fut un spectacle émouvant de voir cette poignée d'hommes faire appel à leurs muscles de pygmées pour résister aux puissances de la nature, essayer, avec des ancres, des câbles, des planches, de recoudre à la hâte les déchirures faites à la glace, combler ses coutures avec de la neige, jusqu'à ce qu'un seul mouvement respiratoire de l'océan polaire vint faire éclater tout ce rapiécetage. Après 4 ou 5 heures d'un travail surhumain, on était à bout de force, et pourtant le danger ne faisait que croître, car la tempête allait en grandissant. Eric tint conseil avec ses officiers, et se décida à mettre en sûreté sur la banquise un dépôt de vivres et de munitions, pour le cas où l'Alaska ne pourrait pas résister à ces épouvantables secousses. Dès le premier moment, d'ailleurs, chaque homme avait reçu des provisions personnelles pour 8 jours, avec des instructions précises en cas de désastre, et l'ordre de garder, même au travail, le fusil en bandoulière. L'opération du transbordement d'une 20aine de tonneaux ne fut rien moins que facile. Mais enfin, on en vint à bout, et l'amas de vivres fut logé à 200 mètres environ du navire, sous une bâche goudronnée que la neige eut bientôt couverte d'un épais manteau blanc. Cette précaution prise, tout le monde se trouva plus rassuré sur les suites immédiates d'un naufrage possible, et l'équipage s'attabla, pour réparer ses forces, devant un souper supplémentaire, arrosé de thé au rhum. Tout à coup, au milieu de ce souper, une secousse plus violente encore que les précédentes agita la banquise. Une pression formidable rompit le lit de glace et de neige sur lequel reposait l'Alaska. Il se trouva étreint par l'arrière et se souleva avec des craquements terribles en plongeant son avant dans le gouffre comme s'il allait s'y abîmer. Il y eut une panique. Tout le monde se précipita sur le pont. Quelques hommes crurent le moment venu de chercher un refuge sur la banquise et, sans attendre le signal de leur chef, enjambèrent les bastingages. 4 ou 5 de ces malheureux parvinrent à sauter sur la neige. 2 autres se trouvèrent pris entre l'amas de glace qui entourait le navire et le bordage de tribord, au moment même où, reprenant son équilibre, l'Alaska se redressait en gémissant. Leurs cris de douleur et le bruit de leurs os broyés se perdirent dans l'ouragan. L'accalmie vint et le navire resta immobile. La leçon était tragique. Eric en prit texte pour recommander à l'équipage de garder son sang-froid et en toute occasion d'attendre des ordres positifs. « Vous le comprenez, » dit-il à ses compagnons. Le débarquement est une mesure suprême à laquelle nous ne pouvons recourir qu'à la dernière extrémité. Tous nos efforts doivent tendre à sauver l'Alaska. Si nous ne l'avions plus, notre situation serait étrangement précaire sur la banquise. C'est seulement en cas où le navire deviendrait intenable qu'il faudrait l'évacuer. Il importe en tout cas au plus haut point qu'un tel mouvement s'opère avec ordre, sinon il se transformerait en désastre. Je compte sur vous pour reprendre paisiblement votre souper et remettez-vous-en à vos officiers du soin de décider ce qu'il convient de faire. » La fermeté de ce langage eut pour effet immédiat de rassurer les plus timides, et tous les hommes redescendirent dans l'entrepont. Eric appela alors Master Herzebaum, lui dit de détacher son bon chien Classe et de le suivre sans bruit. « Nous allons passer sur le champ de glace, » reprit-il à demi-voix, « pour ramener les fugitifs ou les faire rentrer dans le devoir. Cela vaut mieux que de les laisser aller à l'aventure. » Les pauvres diables étaient encore au bord de la banquise, assez honteux de leur escapade. À la première sommation, ils reprirent le chemin de l'Alaska. Eric et Master Herzebaum, après les avoir vus rentrer, poussèrent jusqu'au dépôt de vivres où ils supposaient que quelque autre matelot avait pu chercher un asile. Ils en firent le tour sans rencontrer personne. « Je me demande depuis un instant, » dit alors Eric, « s'il ne serait pas à propos de prévenir une nouvelle panique en procédant tout de suite au débarquement d'une partie de l'équipage. » « Cela vaudrait peut-être mieux, » répondit le pêcheur. « Mais il y aurait à craindre que les autres, ceux qui resteraient à bord, ne fussent jaloux et démoralisés par cette mesure qui les inquiéterait. » « C'est vrai, » reprit Eric. « Il sera plus sage de les occuper tous jusqu'au dernier moment à lutter contre la tempête. Et c'est en somme la seule chance que nous puissions avoir de sauver le navire. » Mais puisque nous voici sur la banquise, si nous en profitions pour voir un peu comment elle se comporte, j'avoue que tous ces craquements et ces détonations ne sont pas sans me donner des doutes sur sa solidité. Eric et son père adoptif n'avaient pas fait, au-delà du dépôt de vivres, 300 pas vers le nord, quand ils furent arrêtés court. Une crevasse gigantesque s'ouvrait sous leurs pieds. Pour la franchir, il aurait fallu de longues perches dont ils avaient négligé de se munir. Aussi prirent-ils le parti d'en suivre le bord en obliquant vers l'ouest afin de voir jusqu'où elle se prolongeait. Ils trouvèrent alors que cette crevasse, ou plutôt cette fissure, se continuait dans cette direction sur une très longue ligne, si longue qu'après avoir marché pendant plus d'une demi-heure, ils n'en voyaient pas la fin. Rassurés par leur exploration sur l'étendue du champ de glace où se trouvait établi le dépôt de vivres, ils revinrent sur leurs pas. Comme ils étaient à moitié chemin environ de la distance qui les séparait de ce dépôt, une nouvelle vibration de la banquise se produisit, suivie de détonations, de craquements et d'un vacarme assourdissant de glaces entrechoquées. Ils ne s'en inquiétèrent pas outre mesure, mais pressèrent le pas, dans l'impatience de savoir si cette secousse n'avait pas eu de conséquences fâcheuses pour l'Alaska. Le dépôt de vivres fut bientôt atteint, puis le petit havre qui abritait le navire. Eric et Master Herzebaum se frottèrent les yeux et se demandèrent s'ils ne rêvaient pas. L'Alaska n'y était plus. Leur première pensée fut qu'ils s'étaient abîmés sous les eaux. Elle était trop naturelle après une soirée comme celle qui venait de passer. Mais presque aussitôt, ils furent frappés de ce fait qu'aucun débris n'était visible, et aussi de l'aspect tout nouveau pour eux que le petit havre avait pris pendant leur absence. On n'y voyait plus cette bordure de drift ice que la tempête y avait entassée en quelques heures, et au milieu de laquelle l'Alaska se trouvait incrustée. Tout au contraire, la forme en était nettement découpée, comme si la banquise avait fini par se détacher de toute pièce de cette bordure accidentelle et par en devenir indépendante. Presque au même instant, Master Herzebaum constata une circonstance qui n'avait pu le frapper pendant qu'il parcourait la banquise en tous sens, mais qui devenait fort apparente pour lui maintenant qu'il se trouvait au point de départ. Le vent avait tourné et soufflait de l'ouest. N'était-il pas possible que la tempête, en changeant de direction, eût simplement chassé au fond du golfe les glaces flottantes au milieu desquelles se trouvait fixée l'Alaska ? Oui, évidemment, c'était possible. Il restait à vérifier si c'était vrai. Sans plus tarder, Eric se dirigea vers le fond du golfe, suivi de Master Herzebaum. Ils marchèrent longtemps, l'espace de 4 ou 5 kilomètres. Partout, le bord de la banquise était libre de drift ice. Les lames furieuses venaient s'y briser, comme sur une grève. Mais le fond du golfe ne se montrait point, et ce qui semblait plus étrange encore, le promontoire qui le fermait vers le sud avait disparu. Enfin, Eric s'arrêta. Cette fois, il avait compris. Il prit la main de Master Herzebaum et la serra dans les siennes. « Père, dit-il d'une voix grave, vous êtes de ceux à qui l'on peut dire la vérité. Eh bien, la vérité, c'est que la banquise s'est rompue, séparée de la masse qui enferme l'Alaska, et que nous sommes sur une île de glace de quelques kilomètres de long, de quelques 100 mètres de large, emportée sur les eaux au gré de la tempête. »